Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Bienvenue, c'est BFM Patrimoine qui vous accueille. 2 heures d'expertise pour gérer au mieux votre argent, c'est notre promesse quotidienne. Et on file tout de suite sur les marchés, à la Bourse de Paris, direction cette salle de contrôle du CAC dans la tour Euronext à La Défense, où nous attend, comme chaque matin, Antoine Larigauderie. Bonjour Antoine, que se dit-on sur les marchés ce matin?
Bonjour Cédric. On aimerait bien que ça bouge un petit peu, parce que c'est vrai que la tendance est pesante. Hein. On a un CAC 40 qui est immobile, on fait du surplace, plus 0,06%, 6701 points, on gravite autour de cette ligne d'horizon, 0,1% de hausse pour l'Eurostock 50, 0,1% de hausse pour le DAX à Francfort. C'est quand même bien payé au vu de ce qui s'est passé du côté de Wall Street hier soir et qui commence à inquiéter un petit peu certains investisseurs. On a eu un décalage assez fort à la baisse des indices américains et une hausse assez marquée de la volatilité qui continue de grimper tout doucement. L'indice VIX, hein, qui est maintenant au-dessus des 20 points. Alors, ce n'est pas un niveau extraordinaire ou spectaculaire, mais enfin, le fait qu'on repasse à la hausse ce niveau montre qu'il y a un petit peu de stress, peut-être, sur les marchés. Stress issu peut-être aussi de la volatilité de ce qui se passe sur le marché des changes. Là, pour le coup, il y a du mouvement, avec un euro-dollar qui fait des allers-retours, alors très, très remarqué, entre 1,04 et 1,06, niveau qu'on a presque touché hier. Il y a eu une forte consolidation en soirée avec un dollar qui reprenait vraiment de la vigueur. Et puis, on est passé du vert, du rouge. Là, on redescend à 1,0495, mais on a vu qu'il y avait une vraie dynamique autour de l'euro. À chaque occasion, on repasse au-dessus d'1,05 et on continue de gagner du terrain en direction d'1,06. C'est peut-être la dynamique à suivre du moment. Alors, du fait des écarts de taux entre zone euro et États-Unis, hein, qui explique un petit peu tout ça, et dans un marché qui est relativement peu actif, hein, sur le CAC 40, on a fait à peine 2,7 milliards hein, hier en termes de volume d'actions échangées, bah, on a un tout petit peu de volatilité qui commence à se dessiner. Et puis, sur les indices, ça se traduit par beaucoup de prudence. Et en l'absence de catalyseurs de nature à faire avancer le marché, ben, on reste un petit peu sur nos niveaux actuels. Donc, 6700 points sur le CAC 40. Alors, à noter, en tête des progressions, Bouygues qui se redresse bien après son gadin d'hier. Plus forte baisse du CAC 40 avec cette opinion négative de Bank of America qui a inquiété un petit peu tout le monde. Là, le titre reprend tranquillement du terrain, plus 1,27. On est à 29,42 €. À noter, Thales qui reprend 0,9% à 122,80 €. On a Orange aussi, plus 0,8% à 9,45 €. Illustration de cette prudence des marchés, hein, c'est justement le choix des valeurs. On a des valeurs quand même plutôt défensives en majorité. À noter AXA qui gagne 0,9% à 27,55 €. Saint-Gobain, plus 0,7 à 46,17 €. Et EssilorLuxottica, plus 0,7 à 178,05 €. À la baisse, on retrouve le secteur bancaire. C'est Société Générale hein, qui signe la plus forte baisse du CAC 40 aujourd'hui, et ce depuis la cloche d'ouverture. Moins 1,75 €, on est à 22,72 €. À noter aussi Crédit Agricole qui suit le mouvement, moins 0,7 à 9,44 €. Un petit peu de techno aussi avec Capgemini qui recule de 0,7% à 172,15 €. Worldline, moins 0,5 à 43,34 €. La plus forte baisse en revanche, elle est pour Quadientlex Neopost qui a abaissé ses prévisions et qui perd en ce moment 10,2% à 13,14 €. Puis alors, très nette contre-performance d'ADP, Aéroport de Paris, qui perd 12% à 129,90 €. Ça veut dire que les préavis de grève se multiplient dans les compagnies aériennes pour les derniers week-ends de l'année. Et qu'on a quand même un sentiment très négatif hein, autour de ce secteur aérien à court terme. Le CAC 40 donc plus 0,1%, on est à 6703 points. Et l'euro donc autour d'un 0,5 face au dollar, on est à 1,0493, Cédric.
Antoine Larigauderie, comme chaque matin, pour prendre le pouls de cette première heure de cotation. Tout de suite, l'Info Éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'Info Éco, Stéphanie Collot.
Et à la une, l'Europe va manquer de gaz dans les années à venir. C'est le scénario du Shift Project mené par Jean-Marc Jancovici qui décrit une Europe au pied du mur en 2025. En cas d'arrêt prolongé des approvisionnements russes, c'est 40% de la demande européenne qu'il resterait à trouver en 2025. Le GNL ne devrait donc pas suffire, à moins que la consommation baisse en proportion. Et dans ce contexte, malgré la hausse des coûts de l'énergie, Saint-Gobain maintient son activité l'activité. Si ses factures en gaz et électricité vont augmenter de 2,5 milliards d'euros sur 3 ans, le groupe de construction et de verre se projette sur le long terme et multiplie les contre-feux face à la crise. Le directeur général Benoît Bazin était l'invité de Good Morning Business ce matin.
À la fois pour prendre des mesures temporaires de réduction, par exemple, de consommation dans nos bâtiments, et des mesures de long terme. Puis dernier sujet, c'est une très bonne exécution opérationnelle, beaucoup d'accompagnement de nos clients, ce sont beaucoup de petits artisans, donc on les prévient à l'avance sur les hausses de prix, on les accompagne avec des devis fixes pendant un mois, on leur fait beaucoup de crédits, 1,5 milliard de crédits par exemple aux artisans en France aujourd'hui, donc c'est beaucoup d'accompagnement de nos clients pour leur faire accepter et les aider à anticiper l'inflation et les hausses de prix.
Crédit Agricole ne financera plus de projets d'extraction de pétrole à horizon 2025. La banque prévoit aussi de se désengager totalement des centrales au charbon d'ici 2030 et 2040. Autre objectif, augmenter de 60% son exposition à la production d'énergie à bas carbone. Un nouvel appel à la grève aujourd'hui, cette fois c'est chez RTE, le réseau de transport d'électricité, à la veille d'un dernier round de négociations salariales. Une grève qui pourrait perturber les travaux de maintenance, préviennent les syndicats. Les syndicats qui menacent de lancer une mobilisation d'ampleur en janvier si le gouvernement maintient sa réforme des retraites. Les différentes centrales étaient réunies hier soir. Toutes ont réaffirmé leur opposition à tout recul de l'âge de départ comme à toute augmentation de la durée de cotisation. Et puis, la chute de FTX aiguise l'appétit de Goldman Sachs. La banque américaine prévoit d'investir des millions de dollars dans les crypto-monnaies. Selon elle, il y a des opportunités de rachat et elle compte bien se positionner. C'est ce qui ressort d'un entretien d'un dirigeant de Goldman Sachs à Reuters, Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie. On se retrouve tout à l'heure, dans une heure, pour suivre cette actualité éco. Et nous, dans l'intervalle, on s'intéresse à vos placements et on commence avec le monde des actions.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Et on retrouve Nicolas Lasserie chez Mescartaem. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous ce matin pour nous parler de Trigano. Pourquoi ce choix ?
Écoutez, Trigano, donc, qui est le leader français des véhicules de loisirs, qui est un titre qu'on détient en portefeuille, a publié la semaine dernière des résultats qui ont été très rassurants à plusieurs égards. Tout d'abord, en fait, sur la partie tension d'approvisionnement, qui est un sujet qui avait pénalisé Trigano en 2021 et en 2022. En fait, la société avait eu du mal à s'approvisionner en châssis ces années-là, ce qui avait poussé à une réduction de sa production en 2021 et 2022. Et sur ce point, justement, Trigano a fait un update plutôt rassurant, puisque la société reçoit en ce moment même des châssis et peut reprendre sa production qui augmente, ce qui lui permet d'exécuter son carnet de commandes qui offre plus d'une année de visibilité. Donc c'est un point particulièrement important, puisque la société peut reprendre la croissance de ses volumes après deux années qui avaient été exceptionnellement perturbées. Alors, on a eu également, lors de la publication de la semaine dernière, un autre élément qui nous a particulièrement rassurés, c'est les commentaires de Trigano quant à la demande finale. C'est vrai que c'est un marché qui offre une certaine cyclicité et on craignait que la guerre en Ukraine, l'inflation et peut-être des problèmes de confiance auraient poussé les consommateurs à soit annuler, soit reporter des achats de camping-cars. Et c'est pas le cas. En fait, les derniers salons sont très bien passés, à la fois en Allemagne, en Italie et même au Royaume-Uni, ce qui fait que la demande finale reste forte. Et pour nous, c'est une très bonne chose. On a également un facteur plus technique qui est favorable, qui est la reconstitution des stocks de la part des fournisseurs, qui est en train également de se matérialiser. Les stocks aujourd'hui sont très bas, seulement un mois contre une moyenne de trois mois depuis plusieurs années. C'est également un élément qui, pour nous, devrait soutenir le chiffre d'affaires de Trigano. Ce qui fait qu'au final, si on se projette sur l'exercice 2023, Trigano a une bonne visibilité et devrait réussir à faire croître ses volumes avec un effet prix embarqué qui est favorable à hauteur de plus 7%. Ce qui fait qu'on entre en 2023 avec une bonne visibilité, ce qui est très très appréciable dans le contexte actuel. En plus de cela, la société devrait maintenir va augmenter sa marge l'année prochaine grâce à cette reprise des volumes, l'effet prix embarqué. Et on devrait avoir une bonne génération de liquidités en 2023 avec une normalisation du besoin en fonds de roulement. Ce qui fait que Trigano nous semble particulièrement bien placé en cette fin d'année. Autre élément qui nous semble particulièrement intéressant, c'est la valorisation.
Oui, mais justement, quand on regarde, Nicolas, la valorisation, ou le parcours d'ailleurs récent du titre, hein, l'un n'allant pas forcément sans l'autre, on a certes repris pas mal de terrain au cours des trois et quelques derniers mois, mais quand on regarde depuis le début de l'année, c'est-à-dire quasiment sur l'exercice écoulé, là, puisqu'on s'approche vraiment des 12 mois, ben, on perd encore quasiment 30%.
Ben, tout à fait. Ce qui fait que pour nous, le titre est particulièrement attractif là au niveau actuel. Malgré la hausse récente de 20% sur un mois, hein, Trigano se paye seulement 5 fois le résultat opérationnel 2023. Donc c'est très bas, à la fois par rapport à l'historique, puisque sur les 10 dernières années, le multiple moyen est de 9 fois, et par rapport au comparable, hein, qui se traite 40% plus cher. Donc on a une opportunité en termes de valorisation et un momentum de résultats qui, selon nous, devrait être favorable.
Merci beaucoup, Nicolas Lasry. Donc, Mescart AM, recommandation d'achat, 150 € pour un titre qui en cote 124,70 ce matin en repli d'1,11%. Trigano, mis en lumière ce matin, le marché, lui, se montre assez hésitant. Plus 0,03% en ce moment, 6699 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Irina Topasseri est en ligne avec nous depuis AXA IM. Bonjour Irina.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous comme chaque mardi pour lire ensemble les questions de conjoncture, de macroéconomie. Et on jette un œil aujourd'hui sur les États-Unis. Jerome Powell a quasiment confirmé une hausse de 50 points de base pour la prochaine réunion le 14 décembre. Et pour autant, eh bien, on a eu les tout derniers chiffres de l'emploi américain de novembre, c'était vendredi, qui pourraient bien être de nature à contrarier ou à plomber un peu les intentions de la Fed. Qu'est-ce que vous en dites ?
Peut-être pas plomber, mais c'est vrai que ça peut poser des questions. Et je pense que c'est pas nécessairement sur la prochaine décision qui a été très bien télégraphiée. Donc on s'attend bien tous à un 50 points de base de remontée des taux directeurs au mois de décembre. La question se pose jusqu'où ira la Fed ? Et la deuxième question, pour combien de temps on restera à ce niveau ? Donc les deux sont interliés en quelque sorte. Mais c'est vrai que ce rapport de l'emploi a ramené un petit peu de doute à nouveau sur ces questions-là, pour le marché en tout cas, à savoir que les différentes enquêtes sur le marché de l'emploi aux États-Unis donnent somme toute des messages assez peut-être un peu contradictoires. Pas tellement sur la direction, tout le monde s'accorde, enfin on le voit bien, le marché de l'emploi aux États-Unis, ça s'agit, mais à un rythme plus ou moins rapide. Et c'est ça qui va être effectivement le cadrage pour accorder et affiner ce point final de pic de taux. Et c'est notamment cette enquête auprès des entreprises, les payrolls, hein, comme on appelle dans le jargon, qui était somme toute assez forte. Hein. Donc le niveau de création d'emplois reste assez fort, même si et le niveau effectivement des salaires, hein, surtout c'est ça qui importe aussi à la Réserve fédérale, c'est cette deuxième donnée de ce rapport qui est, elle, nourrit justement l'inflation. Donc certes, ça s'agit, mais probablement la pression des salaires, en tout cas venant de cette enquête, reste probablement un peu trop élevé pour lâcher un peu prise sur l'inflation sous-jacente. Maintenant, le marché a décidé de ne pas trop s'inquiéter là-dessus. Et à juste titre, il faut savoir que, compte tenu du traitement statistique de cette enquête, il est fort probable qu'il y a une surestimation là-dessus, notamment le traitement statistique des entreprises qui font faillite et des créations d'entreprises. Donc il y a un algorithme, un modèle qui essaie de rendre équivalent un peu l'effet des deux, ce qui fait qu'on a un lag, un peu un temps avant de connaître exactement le nombre d'entreprises qui ont fait faillite par exemple. Donc il y a quelque chose comme ça qui effectivement suggère que probablement le ralentissement du marché de l'emploi est plus rapide que cette enquête ne le suggère. Mais parce qu'il y a quand même un mais, quand on regarde de l'autre côté, on voit très bien quand même que même si les ouvertures de postes ralentissent et le taux d'abandon d'emploi se tasse, ça reste quand même très élevé. Si vous regardez ça en historique, nous sommes encore sur les, par exemple, le taux d'abandon d'emploi à deux écarts types au-dessus des moyennes de long terme. Donc ça se passe, mais ça reste encore très fort. D'où, comme vous disiez, Jay Powell qui nous a parlé récemment, et moi je trouvais qu'il n'a fait que dire encore ce qu'il a dit, c'est que la cadence de remontée des taux va ralentir, donc on a dit 50 points de base peut-être au mois de décembre, mais que le taux terminal n'est pas atteint et qu'on risque de rester plus longtemps à ce taux terminal pour s'assurer qu'on a baissé l'inflation.
On se pose toujours la question de ce taux terminal, Irina, et donc de l'épaisseur de la hausse qui nous reste à parcourir. Jusqu'où pourrait aller la hausse des taux et quels seraient les dégâts associés? Parce qu'on va dire que la Fed et la BCE, son corollaire, veuillent infliger des dégâts à l'économie pour freiner l'inflation. C'est, on va dire, assumé. Reste à connaître la nature ou l'importance des dégâts.
Oui. En fait, le niveau de ce pic que seule la Fed atteint, enfin saura, enfin on le saura quand on l'aura atteint dans le temps, hein, a posteriori forcément. Enfin, ce niveau du pic, selon combien, jusqu'où elle ira, aussi haut qu'elle ira la Fed, ça fera aussi la probabilité, ça vous nous donnera aussi la lecture sur à quel point elle baissera les taux et à quelle rapidité. Je m'explique, plus haut elle montera, donc plus elle va, plus haut sera le pic, plus forte sera la désinflation, et donc plus vite la Fed rebaissera ses taux. Donc après, comme toujours, sachez, il y a des non-linéarités dans le marché de l'emploi, donc le marché de l'emploi peut réagir par justement par palier d'un coup. Et du coup, effectivement, ça peut ajuster, ça peut appeler à des ajustements plus brutals sur la politique de la Réserve fédérale. Nous, on pense qu'en fait, la Réserve fédérale restera néanmoins plutôt plus prudente que moins. Elle devrait s'assurer que les salaires et l'emploi atterrissent bien à ce niveau attendu afin de, comme on dit toujours, dompter cette inflation. Et pour nous, 5% devrait être le pic de la Réserve fédérale, qui devrait être atteint en début d'année 2023, et justement, elle devrait y rester tout au long de l'année 2023, en attendant justement les clarifications sur toutes ces statistiques-là qui vont un peu dans tous les sens.
Merci beaucoup Irina. Irina Topasseri et Axayem qui nous accompagnaient ce matin, le marché parisien qui reste pour le moment très très hésitant. On est autour du niveau de clôture d'hier soir, l'indice CAC 40 qui perd 0,01%, 6 696 points.
Votre rendez-vous avec Empruntis, courtier en crédit et assurance. Empruntis.com, 160 agences partout en France.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO.
Roland Paul est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints, président de GSE. Alors, le contexte géopolitique et économique fait craindre, bien évidemment, un impact majeur sur le marché de la construction. On en parle quasiment jour après jour sur l'antenne. La logistique, elle semble sortir son épingle du jeu. Comment est-ce que vous expliquez tout ça?
Eh bien, c'est vrai qu'actuellement, on a une grosse activité et pratiquement le frein à l'activité, c'est la tension sur la supply chain qui a énormément de travail aujourd'hui. Normalement, quand on prend une commande, on peut démarrer un mois après. Là, c'est plutôt 4-5 mois après parce que les sous-traitants sont très chargés. Alors, pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Je pense que la façon de consommer des Français a quand même beaucoup bougé. Et que ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur l'e-commerce. La logistique est très présente. Et aussi sur le type de consommation où des petites surfaces maintenant rejoignent les consommateurs. On préfère aller dans une petite surface que dans une grande surface. Et du coup, il faut repenser toute la logistique avec beaucoup plus de livraisons et beaucoup plus de références. Quelque part, moi je constate que cette année, on devrait faire, le marché devrait avoir 4,5 millions de mètres carrés. On était à 3 millions fin août, ce qui est la moyenne des 5 dernières années, qui est plus d'un million de mètres carrés supérieur aux 15 dernières années. Donc oui, ça se passe bien. Il y a aussi le taux de vacance, bien sûr, le taux de vacance de la logistique qui est environ à 2,5%. On sait qu'en dessous de 5%, eh bien, il n'y a pas assez de bâtiments logistiques.
Bon. Donc, on est sur un trend, sur une tendance, comme on dit, assez élevée, tendance stable. Vous voyez quand même un ralentissement possible ou vraiment tous les clignotants sont au vert sur des kilomètres et des kilomètres?
Oui, aujourd'hui, on est très tendu, mais je pense que ça devrait certainement diminuer. Les expériences précédentes, des crises précédentes, ont montré que ça pouvait nous rejoindre, mais avec une certaine hystérésis, sensiblement un an avant que vraiment ça nous rejoigne. Oui, de nombreuses raisons sont là pour conduire à une baisse de l'activité. La première raison, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de construire aujourd'hui. Plus difficile parce qu'on a moins de terrain. La loi ZAN est là.
Et aussi, on rappelle, ZAN, c'est zéro artificialisation nette.
Voilà, c'est ça. Et aussi, certainement, une des raisons, c'est qu'il y a pas mal de recours aujourd'hui sur l'ensemble des dossiers. Les gens n'ont pas très envie, les politiques n'ont pas très envie, les Français n'ont pas très envie d'avoir de logistique à côté. C'est aussi une des raisons. Après, on a des raisons beaucoup plus financières. L'équation financière fonctionne moins bien, parce que la loi ZAN a conduit à des augmentations très importantes du prix des terrains, du foncier. Parce que aussi le coût de la construction a beaucoup augmenté ces dernières années. Dans les 18 derniers mois, on a eu environ une trentaine de pourcents d'augmentation de nos coûts, ce qui est gigantesque. À ça se rajoutent les taux d'intérêt, mm-hmm, qui ont bougé.
Bien sûr, ça n'échappe à personne.
Ça n'échappe à personne. La frilosité des banques, avec des leviers qui sont plus faibles pour les investisseurs. Et pour compenser cet ensemble, on a uniquement les loyers, qui augmente un petit peu, mais qui n'arrive pas à compenser. Et pratiquement, les taux de capitalisation de sortie sont augmentés environ de plus d'un point. Donc, des équations ne fonctionnent plus.
Ouais. Donc, équations financières, on l'a bien compris. Vous en avez dit un mot rapide de cet aspect environnemental. Enfin, c'est vrai que la contrainte, elle est très forte aujourd'hui sur ce monde de la logistique. Il y a cette zéro artificialisation nette, je vais y arriver, mais il n'y a pas que ça. Enfin, comment est-ce que vous appréhendez un petit peu la question justement de l'environnement, du défi climatique, de la transition? Enfin,
il est clair que la disparition de la biodiversité, c'est pas une inconnue. On sait qu'il y en a, il y a environ plus de deux tiers de la biodiversité qui a disparu dans les 50 dernières années. Le réchauffement climatique est là et on est dans l'industrie qui est certainement la plus impactante. Plus de 40% est liée à la construction. Donc oui, l'industrie doit se réinventer et on doit amener des réponses. Alors on travaille bien sûr sur ces réponses. Et les réponses, elles ne sont pas à un endroit, elles sont tout au long de la construction. Elles sont au départ avec des chantiers faible impact, le traitement des déchets en particulier. C'est aussi dans la conception, dans les émissions carbone. Cette année, on a livré un entrepôt avec des dallages et des fondations bas carbone. 50 000 m² d'entrepôt. C'est 30% de diminution de l'émission carbone, ce qui correspond à 7% de diminution pour le bâtiment entier. Il y a aussi les consommations énergétiques. Là aussi, il y a des solutions. Là, cette semaine, j'étais à la première pierre d'un bâtiment que l'on démarre pour ADP. Ce bâtiment produira 3 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme. Il y a aussi la gestion de la biodiversité. Mmh. Là aussi, parfois, des éléments assez simples font que la biodiversité présente peut rester et même augmenter. Ça veut dire qu'on travaille actuellement sur de la biodiversité positive. Et il y a aussi le bien-être au travail où on a un gros travail là-dessus. Nous, on a une trentaine d'ingénieurs dans notre lab qui travaillent là-dessus pour amener des réponses.
Vous l'avez rappelé dans votre propos, l'accès au foncier, oui, est aussi une vraie problématique et que souvent, vous parliez des politiques et ou des riverains. C'est vrai que avoir un entrepôt, c'est pas le rêve comme environnement, comme voisinage, on va dire. Du coup, j'imagine que vous réfléchissez aussi à toutes ces questions-là. À quoi il peut ressembler finalement l'entrepôt de demain? Quelles peuvent être les solutions, tant en termes d'environnement, vous nous avez dit un mot, mais aussi en termes d'acceptabilité? À quoi il ressemble notre entrepôt de demain?
C'est vrai que l'entrepôt, on fait plus glamour comme type de bâtiment. Cela dit,
soit c'est énorme en superficie et on se dit l'emprise est forte, ou alors c'est très haut et complètement opaque et on se dit c'est moche dans le paysage. Enfin, on n'a pas beaucoup d'autres solutions dans notre connaissance.
Bien sûr, cela dit, l'intégration dans le paysage est un vrai travail actuellement. Et je pense que le zéro artificialisation, yes, net.
Vous êtes plus doué que moi.
Je me suis entraîné. Peut se résoudre aussi en diminuant l'emprise au sol. Alors, diminuer l'emprise au sol, c'est se surélever les bâtiments. Et c'est vrai, c'est sur quoi on travaille actuellement. On construit pas mal de bâtiments multiniveaux. On en a construit en France. On va en construire d'autres en France. On a reçu des commandes aujourd'hui. On en construit en Italie, on en construit en Espagne, on en construit en Chine. Et on en a construit en Allemagne aussi. Cette tendance amène une vraie solution sur l'emprise au sol.
Et du coup, il est plus visible dans le paysage.
Il est plus visible, cela dit, le traitement des façades permet d'avoir une intégration du bâtiment. Il y a aussi on a une filiale Confluence qui recherche des terrains et qui travaille sur des friches industrielles, parce que réellement, le Greenfield, je pense que c'est à peu près fini. On va faire plus que des bâtiments sur des friches industrielles. Le travail est aussi à avoir pas uniquement de la logistique dans une zone, mais avoir des zones mixtes où on fait à la fois de l'activité, l'activité aussi qui bouge, parce que les bâtiments d'activité que nous construisons aujourd'hui sont des multiniveaux, pour moins prendre d'espace, et des parkings multiniveaux aussi. Cet ensemble fait qu'il y a à la fois de l'activité et à la fois de la logistique.
Donc ça, ce sera, entre guillemets, c'est une des pistes pour l'entrepôt de demain ?
Tout à fait.
Pour la logistique de demain ?
Tout à fait, c'est ce qu'on est en train de faire et on... L'entrepôt de demain, j'espère, sera construit aussi par GSE. C'est ce qu'on vise aussi.
Roland Paul, le patron donc de GSE, vous l'aurez compris. Merci d'être passé nous rendre visite.
Merci.
Le marché parisien, lui, reste pour le moment très hésitant. On va voir ce qu'en disent nos traders. On retrouve dans un instant Romain Aubry, que l'on aperçoit depuis sa cellule info d'experts de Bourse Direct. À ses côtés, Jean-Louis Cussac, chez Perceval Finance Conseil. N'oubliez pas non plus nos replays qui vous attendent sur le site ou sur votre plateforme préférée.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
On est ensemble chaque matin à 10h30 avec deux traders qui lisent la tendance du jour grâce à l'analyse graphique, technique. Jean-Louis Cussac et Romain Aubry sont avec nous. Bonjour messieurs et merci d'être au rendez-vous. Jean-Louis Cussac depuis Bonjour. Perceval Finance Conseil, Romain Aubry depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. On commence avec vous Romain, quelle analyse faites-vous ce matin de cette tendance difficile à comprendre ?
Bonjour Cédric, bonjour à tous. Bien une consolidation en bon ordre pour l'instant. On le voit, on a rompu le canal haussier sur le CAC 40 au sein duquel il évoluait depuis mi-octobre. Mais gentiment, ça a commencé vendredi. Et pour l'instant, les volumes à la baisse sont très légers et on n'accélère pas. Il y a pas ou peu de pression baissière, très peu, 0,5% de pression baissière sur l'Eurostoxx ou le CAC 40 au cours de la baisse d'hier, c'est très très modeste. C'est plus équilibré aussi du côté des couvertures dans les portefeuilles. On avait un petit peu d'optimisme, un peu de suroptimisme, on va dire, en milieu de semaine dernière, et puis le warning de vendredi a permis aux investisseurs de se protéger à nouveau. Donc on a un ratio de couverture qui est équilibré. Il n'est pas pessimiste, mais il est équilibré. Donc il n'y a rien de méchant, mais on bute sur des niveaux. Alors on n'a pas structure de retournement qui se met en place, plutôt des structures d'épuisement. Donc sur le CAC 40, on le disait, sortie du canal haussier de moyen terme. Sur le S&P, il y a un niveau qui a été très identifié, hein, c'est la ligne de tendance baissière qui est active depuis janvier, sur laquelle on a buté 4 fois. On est arrivé dessus et donc il y a un peu de reflux contre ce niveau-là. Sur le CAC 40, c'est la borne haute du canal haussier de long terme qui est active depuis 2011. On est arrivé dessus, c'est aux alentours de 6775. Et donc par il y a peut-être une prise d'élan avant de déborder ce niveau-là, en tout cas un peu de consolidation, mais ça reste très, très canalisé. Alors, on est là pour l'instant précisément dans la zone d'alerte intraday, selon nous, 6685-6710. C'est un niveau important à préserver. En dessous, la cible, la première, c'est 6549 points. Il y a un intermédiaire important à 6608, mais la cible légitime, ce serait 6549 points. Ça pourrait être le niveau de retracement, 6550-6570, idéal du mouvement qui est relativement fort et dans un mouvement de consolidation qui est très très attendu. Si on avait des extensions sous ces niveaux-là, c'est 6388, 6454, le retracement idéal. On se pose même la question de voir si le marché pourrait retracer dans ce niveau-là compte tenu du contexte et de la, de l'attente forte de repli qu'ont beaucoup d'investisseurs. À l'inverse, si on repasse au-delà de 6725, on pourrait aller chercher 762,5. Et puis la zone 6800-6820, l'extension, le gros niveau de résistance au-dessus, c'est 6870 points. Donc pour l'instant, on est un peu prudent. On travaille, nous, un peu dans le sens vendeur, mais plus pour couvrir des positions, puisqu'on est relativement exposé par ailleurs.
Voilà la lecture proposée par Romain Daubry, Jean-Louis Cussac. Comment travaillez-vous ce marché? Comment expliquez-nous cette tendance délicate à comprendre?
Alors, presque l'inverse de Romain, mais en fait, plutôt à l'achat sur les indices, mais en n'étant pas exposé trop par ailleurs, parce que justement, les idées commencent à être difficiles à trouver sur les actions, hein, puisque on arrive au bout de quelque chose et trouver des relais, des valeurs qui déclenchent. Alors évidemment, si on va chercher des petites, on arrive toujours à trouver des trucs qui peuvent être très nerveux, mais sur des valeurs qui offrent un minimum de sécurité, c'est pas simple. Là, on est à 430 millions d'échangés, donc vous voyez, c'est modeste. 15 de vol implicite, c'est bien, elle a bien rebaissé cette vol implicite. Et on est au même niveau qu'hier, à peu près, après-midi, on avait fait un petit trou d'air, on était remonté, etc. Donc, on dérive horizontalement. Et d'ailleurs, depuis le 11 novembre, là, on a fait 18 séances. Et là, on est quoi? Par rapport au 11 novembre, on avait gapé à la hausse ce matin-là, vers 6600 et quelques. On est 50-60 points au-dessus. Donc, vous voyez, on est sur 18 séances, on a très peu à avancer. On a été un peu plus haut, bien sûr, mais on avance difficilement, laborieusement. On a donc des petits signaux de faiblesse depuis quelques jours qui s'accumulent, mais c'est léger. Pourtant, on a eu la Chine qui a envoyé le message qu'on espérait, qui donc Shanghai a rejoint la liste des villes qui assouplissent leurs restrictions sanitaires. Toutes ces décisions d'ouverture, évidemment, ça alimente l'optimisme un peu sur les marchés chinois, sur l'économie mondiale. Mais pendant ce temps-là, les statistiques américaines montrent que l'économie est très résiliente, que la récession, pour le coup, n'est pas d'actualité aux États-Unis, que les politiques donc monétaires devraient rester restrictives. En revanche, en zone euro, là, c'est pas la même chose. On se dirige plutôt vers une récession. On a des signaux de ralentissement fort. Voilà, c'est toujours la même chose, mais petit à petit, les choses se décantent et on y voit un petit peu plus clair. Pas forcément tout en rose, bien évidemment, mais en tout cas, c'est ce qu'on espère, bien sûr, des ralentissements sans aller vers la récession, qu'on puisse contrôler les taux, etc. Donc, on fait quand même du surplace, on n'a pas des réactions fortes du marché, on n'a pas d'anticipation forte. On a New York, on a les marchés américains qui ont un peu plus tapé le fond, là. Elles ont vraiment un peu sont revenues en arrière. Mais c'est pas non plus très méchant, mais c'est vrai que c'est à cause justement de ces politiques restrictives dans le pipeline. Bon, après, nous on continue d'acheter, on a commencé ce matin vers 83, 81 ensuite, des petits rebonds rapides, et en gros on achète jusqu'à 60, voilà. On achète jusqu'à 60, considérant que jusqu'à ce niveau de 6660, le marché conserve un maximum de chances de rebondir en intraday. Les jours précédents, j'ai eu ce même discours. À chaque fois, on a rebondi. Alors, plus ou moins, mais on a rebondi. Le contexte reste donc parfaitement identique. Et l'euro-dollar stabilise. C'est pareil, on tente d'acheter sur des replis. Mais là, pour l'instant, on est dans la phase un petit peu de retracement de l'euro-dollar, qui est un petit peu plus marqué. Mais c'est vrai qu'il avait quand même énormément boosté.
Merci à tous les deux. Donc Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, Romain Daubry et la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Vous restez connectés au marché. Romain, on vous retrouve tout à l'heure, 11h30, pour suivre les évolutions de cet indice CAC 40 qui, pour le moment, fait quasiment du surplace, hein, puisqu'on laisse filer modestement un tout petit peu de terrain sur l'indice CAC, -0,09, 6691 points.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
Bonjour Benoît Lombard.
Bonjour Cédric.
Président du groupe La Place, et on parle ce matin, en ce moment, d'immobilier et de société. D'abord, on plante le décor, on parle de détention, c'est ça?
On parle de détention et puis on parle de location aussi, parce que c'est de ce dont il va s'agir également. Je vais rappeler deux chiffres intéressants. Il y a 36% des ménages français qui sont locataires. Et est-ce qu'ils sont locataires nus ou meublés? On va en parler. Et dans les meublés, justement, il y a un peu plus d'un tiers, 36% de locations meublées à Paris et à Bordeaux.
Voilà le cadre posé. On a donc compris qu'on allait parler de location. Quelle est la problématique? C'est-à-dire qu'il faut choisir justement entre nu et meublé?
Voilà. Donc, soit vous louez votre bien immobilier nu, c'est-à-dire non garni de meubles, normalement. Ouais. Puis auquel cas, c'est très réglementé, très encadré. On a des baux de 3 ans, on a des baux de garantie, on a des préavis pour le locataire, on a des préavis pour le bailleur. Soit vous le louez meublé, c'est-à-dire garni de meubles meublants et qui permettent au locataire de pouvoir s'installer, j'allais dire, sans son mobilier. Là, on a des beaux...
Et en plus, aujourd'hui, tout est très encadré. On sait très exactement encadré. Ce qu'il faut avoir comme meuble, comme couvert. Comme
exactement. C'est avec quand même un peu de souplesse. Mais en tout cas, administrativement, c'est très encadré puisqu'il y a eu quelques abus avec certaines plateformes de location. Le location meublée, c'est 1 an. Mais le problématique, c'est que le régime fiscal... 1 an minimum. Donc, maximum, pardon. Donc, le régime fiscal est différent. Hein. Donc, vous savez que dans la catégorie des revenus, quand vous faites votre déclaration d'impôt sur revenus, eh bien, vous avez votre salaire, vous avez des plus-values, des revenus de capitaux mobiliers, puis vous avez des revenus fonciers. Hein. Donc, dès l'instant, on a des biens qui sont loués nus. Vous êtes dans la catégorie des revenus fonciers. Et là, on déclare au réel, hein, donc avec les frais qu'on peut imputer, les intérêts d'emprunt qu'on peut déduire, les travaux d'amélioration, de conservation, etc. Ça nous fait un résultat net qui, après, est assujetti à l'impôt sur revenu. Ou, autrement, on peut opter pour le micro-foncier avec 30% d'abattement forfaitaire. Mais il ne faut pas excéder 15 000 euros. Puis vous avez les locations meublées. Et là, du coup, l'administration fiscale estime que c'est une activité qui relève des BIC. C'est quoi les BIC? C'est pas le stylo.
Bénéfices industriels et commerciaux.
Voilà, bravo. Donc, c'est vrai que c'est excellent. Donc, et les bénéfices industriels et commerciaux, eh bien, c'est une catégorie spécifique. Et là, où on est au régime micro, mais là, on peut aller jusqu'à 72 600 euros. Énorme montant, quand même, de location. Et là, on a un abattement, lorsqu'on est au micro, forfaitaire, de 50% contre 30% pour 15 000, 50% pour 72 600. Ou alors, on est au bénéfice réel. Juste les 72 000, c'est plus de 72 600. C'est une location meublée classique. Mais si c'est une location d'hôte, un gîte, 172 000 euros. C'est énorme. Donc, avec un abattement encore de 50%. Donc, vous êtes à une tranche marginale de 41. 50%, bah, ça fait quand même, on va réduire la note fiscale par deux. Mais n'oublions pas les prélèvements sociaux de 17,2 à chaque fois ils s'appliquent. Donc là, on a
location meublée. Jamais oublier les prélèvements.
On a planté le décor et on ne choisit pas. On ne choisit pas. Ou c'est meublé, c'est BIC. Ou c'est nu, c'est revenu foncier.
Bon, ça, c'est le cadre dans lequel on évolue. Pourquoi nous avoir parlé de société au départ?
Bah, d'abord, pour vous dire que si vous dettez votre actif immobilier par le truchement d'une entité sociétale, et que bien souvent c'est une SCI, et cette SCI n'est pas assujettie à l'impôt sur la société, elle relève de l'IR. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les associés donc sont des personnes physiques qui sont assujetties à l'impôt sur revenu. Et donc, les revenus fonciers sont logés au sein de la SCI. Une 2072, une déclaration 2072, et puis après on éclate le résultat en fonction du prorata de chacun des associés. Mais cette SCI, si elle détient par exemple une résidence secondaire, et puis qu'elle se dit, bah tiens, au mois de juillet, j'ai loué ma résidence secondaire, eh bien là, ça relève, puisqu'elle est meublée, on va pas enlever les meubles, et puis regardez, et puis en plus les baux, de 1 mois, c'est pas possible. Donc c'est une location meublée. Et là, on relève des BIC. La problématique, c'est que si on a une SCI non assujettie à l'IS, qui fait la location meublée, ne serait-ce qu'un été, eh bien là, on fait dégénérer la SCI en option impôt sur les sociétés. Et il s'en va toute une cascade d'incidences non choisies, non maîtrisées.
Donc, entre guillemets, c'est le bazar, tout ça, parce qu'on...
C'est le bazar parce qu'on est assujetti à l'IS, c'est le bazar parce que là, du coup, la société, elle n'est plus transparente fiscalement, c'est-à-dire qu'elle a un écran fiscal, où il faut faire une comptabilité, on est taxé à l'impôt sur les sociétés, et puis si jamais on a encapsulé les revenus qui sont générés par l'entité au sein de cette société, eh bien, sont distribués. Après, on a la flat tax, tu fais à peu près 40 à 48% d'impôt selon ces tranches d'imposition. Et donc là, on ne sait pas. Et puis surtout aussi, si on vend le bien immobilier, on n'a plus l'exonération au bout de 30 ans. Juste une petite chose là. Vous avez vu l'amendement qui est passé là? Il y a un amendement qui est passé au Sénat en première lecture qui dit que la taxation de l'impôt sur les plus-values immobilières pour les particuliers, eh bien, si c'est exonéré au bout de 30 ans, là, ça serait deux taxes, moins de 2 ans de détention, 30%, plus de 2 ans, 15%. Donc, juste, je le dis, il y a 49.3, l'arme magique qui va permettre d'éliminer ça. Non. Mais là, on se voit très bien que l'impôt sur les plus-values immobilières, lorsqu'on détient des parts de SCI qu'on vend, non assujetti à l'IS, au bout de 30 ans, on est exonéré.
Donc ça veut dire qu'il ne faut pas, par exemple, loger sa résidence secondaire dans une SCI ou alors qu'il ne faut pas la louer?
Alors, ça veut dire que si jamais on loge...
Il n'y a pas de solution?
Il y en a une. On peut opter, on peut créer. Alors là, il faut maîtriser, là encore, il faut pouvoir penser. On peut créer une SARL de famille. Qu'est-ce que c'est?
Une SARL de famille.
Une SARL de famille. Bah, comme son nom l'indique, c'est une SARL, société à responsabilité limitée, dont les associés sont tous des membres de la même famille. Ascendant, conjoint, enfant, grand-père, petit-enfant, par exemple. Et cette SARL peut, sur option, opter, non opter pour l'IS, si je puis dire. Et elle relève de l'impôt sur revenu. Et comme la SARL est une activité commerciale par nature, c'est une société à responsabilité commerciale, qui peut, sur option, c'est la seule option qu'on connaisse dans le droit français, droit fiscal français, donc ne pas opter pour l'IS, ce qui permet de détenir son actif immobilier par le truchement d'une société. On sait que ça permet de dissocier le pouvoir politique du pouvoir économique, ça permet aussi, bien évidemment, de morceler les transmissions au fil du temps. Il y a tout un tas d'avantages, ça permet d'avoir de la dette et d'imputer cette dette en cas de transmission anticipée, à l'IFI, s'il y a des, il peut y avoir des décotes si jamais il y a une illiquidité organisée des parts. Bref, il y a tout un tas d'avantages qui sont attachés à la société. Et donc, si on détient son actif immobilier via une entité sociétale, on peut très bien le faire via une SARL de famille, ce qui permet d'éviter d'opter pour l'IS et donc d'avoir la fiscalité des particuliers.
Et du coup, pas besoin de comptabilité, etc.
Alors, on fait une comptabilité, bien sûr, commerciale, mais on n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés. Ce qui veut donc dire que tout remonte donc au sein de l'entité, les revenus, l'allocation du mois de juillet, hein, et puis elle est ventilée au prorata entre les mains de chacun des associés qui sont de la même famille et qui permet, là encore, de bénéficier de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, mais surtout au jour où on vendra ses parts de SARL, eh bien d'avoir la fiscalité de l'impôt sur les plus-values des particuliers, c'est-à-dire une exonération au bout de 30 ans. Et bien souvent, la résidence principale, elle est détenue sur une résidence qui est longue, sur un temps qui est long.
Et c'est simple à mettre en place ou ça demande d'être accompagné?
Bien sûr, évidemment, SARL, il faut avoir un conseil juridique, il faut avoir un expert comptable pour faire un peu de comptabilité, mais je vous rappelle que pour une SCI, il en va de même, hein, donc il faut être accompagné là encore. Il faut répondre à ses obligations réglementaires, il faut s'organiser aussi de telle manière à ce que la gestion
donc
de la SCI...
Donc c'est les mêmes pépins administratifs, entre guillemets, mais on n'a pas les questions fiscales.
Il n'y a pas d'inconvénient par rapport à une SCI, il n'y a pas d'avantage non plus, sauf, bien évidemment, si vous voulez louer votre résidence principale, secondaire ou principale même, l'été.
Bon, et ben voilà, ça s'appelle donc une SARL de famille. Et ça nous était détaillé ce matin par Benoît Lombard pour le groupe Laplace. Merci beaucoup, Benoît. Nous, tout de suite, on jette un petit œil sur l'évolution de la séance en cours à Paris.
Retrouvez votre rendez-vous avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974 et à vos côtés en France depuis 2007.
Le marché parisien qui vit un début de séance un petit peu hésitant. Alors, il y a déjà eu quelques embardées. On a déjà été en territoire négatif, on a déjà été en territoire positif, mais on reste peu ou prou scotché au niveau de clôture d'hier soir. En témoigne le CAC actuellement, qui laisse très modestement filer 0,06%. On est à 6693 points. Ailleurs, en Europe, d'ailleurs, difficile d'aller puiser l'inspiration sur nos petites camarades européennes, puisque si on prend l'Eurostock 50, qui est cet indice européen qui fait un petit peu la synthèse des grandes valeurs de la zone euro, eh bien, il est lui aussi quasi étal, moins 0,02% en ce moment pour cet Eurostock 50. Du côté des principaux arbitrages, il y a pourtant quelques dossiers qui sont tranchés, hein, à la baisse du Capgemini, du Téléperformance, du Société Générale et surtout sur Eurofin Scientifique, une baisse d'un 89% à 66,42 €. De l'autre côté, Bouygues a pris la tête de l'indice, il s'adjuge 1,69%, le titre Bouygues à 29,54 €. Derrière, Thales prend 56% à 123,60 €. Airbus gagne 0,96% à 111,38 € au coude à coude avec Orange qui gagne également 0,96% à 9,46 €. Hors du CAC, on peut citer quelques arbitrages. À la baisse sur Quadient à 12,36 € qui perd 15,52% ou encore ADP 128,95 € moins 12,62 €. Et puis du côté des hausses, Claranova reprend 9,86% à 2,92 €. Et il y a Onxéo également parmi les fortes hausses, 17 centimes à en hausse de 6,25%. Du côté des matières premières, le Brent est à 83,47 €. pour le baril. Et puis du côté des devises, l'eurodoll 1,0493. Je vous rappelle le CAC 40 qui hésite sur la conduite à tenir. L'indice pour le moment perd 0,06% à 6692 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille maintenant Jean-Philippe Dubosc. Bonjour.
Bonjour Cédric.
Pour tout sur mesfinances.com. Alors vous m'avez envoyé une petite note. Donc
une petite
je m'attendais,
lettre.
Voilà, une petite lettre, on pourrait dire. Je m'attendais donc à vous voir arriver en déguisement puisque vous nous révélez.
Ouais, mais le rouge ne va pas très bien.
Vous auriez dû que le Père Noël existe.
Eh ben oui, le Père Noël existe.
C'est-à-dire, alors, il faut que les enfants n'écoutent pas cette.
Non, bah non, bah
ou au contraire.
Surtout pas. Non, parce que c'est la magie de Noël, on va pas la casser. Alors, en fait, j'ai un peu triché, Cédric, c'est le père sans E.
C'est le père sans E,
voilà, c'est le PER. C'est le plan d'épargne retraite. Vous savez, ce placement.
Et lui, on sait qu'il existe.
Ah, bah lui, il existe bien, même il fait un carton, même si on peut dire. Donc, il a été créé par la loi Pacte, et donc c'est un placement qui est destiné à se constituer un complément de revenus à la retraite. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que je vous parle, pour Noël, du plan d'épargne retraite et a fortiori...
C'est toute l'année qu'il faut s'en occuper, non ?
Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Mais disons que, en fait, ça peut être une bonne idée de cadeau. Si vous n'avez pas d'idée, voyez, pour votre enfant ou votre petit-enfant, et d'ailleurs, chers téléspectateurs, pareil, hein, si vous êtes en panne d'idées pour le sapin, eh bien, vous pouvez toujours ouvrir un plan d'épargne retraite, parce que les gens ne le savent pas, mais c'est possible de souscrire un tel plan au nom d'une personne mineure. Alors bien sûr, il faut l'autorisation des représentants légaux, qui sont la plupart du temps les parents. Eh bien, figurez-vous, Cédric, que ça peut être un très beau cadeau de Noël.
Alors, on va détailler pourquoi, cela étant dit, il y a quelques compagnies qui tiquent un petit peu. Hein.
Tout à fait. Alors, c'est-à-dire qu'en
fait, faut pas vous étonner si le premier auquel vous vous adressez vous dit oh là là, il est d'un ordre de question.
Vous faites bien de le dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est prévu dans la loi Pacte, mais il y a des assureurs qui ne veulent pas le mettre en place. Effectivement, vous avez raison. Je pense que, puisque je vais donner mon opinion, je pense que c'est une erreur.
Ouais.
Je pense que c'est une erreur de leur part parce que justement, on le sait, plus on commence à épargner tôt, pour sa retraite, plus on peut prendre de risques. Donc, plus ça va rapporter, puisque ça devrait rapporter. Et en plus, c'est
on
pas mal.
On se cache pas derrière son petit doigt. On sait pourquoi les gens.
Bah, ça on le verra plus tard.
Voilà, hein.
Mais vous spoilez, comme on dirait dans le mauvais français.
Bon. Alors,
donc effectivement, ce que je vous disais, c'est que c'était un beau cadeau.
Ouais. Pour quelle raison c'est bien de souscrire ce PER pour un enfant ?
Eh ben, c'est un beau cadeau parce que les jeunes générations, et ça c'est une moins bonne nouvelle, risquent d'avoir des retraites encore plus faibles que leurs aînés. Alors il y a plein de raisons à ça. Vous savez que les régimes de retraite complémentaires ont été confrontés à des déficits. Pour réduire ces déficits, ils ont fait quoi ? Ils ont baissé le rendement. Donc ça veut dire que les retraites complémentaires rapportent moins. Or, ça représente entre 30 et 40% de la retraite. Pour ce qui est la retraite de base, c'est pas mieux. On n'arrête pas d'allonger la durée de cotisation et vous savez que là, il y a un projet où peut-être qu'il va y avoir à la fois un recul de l'âge légal et une accélération de l'allongement de la durée de cotisation portée jusqu'à 43 ans. 43 ans, quand vous êtes jeune, ça va être de plus en plus difficile de justifier de tous vos trimestres. Mmh. On rentre de plus en plus tard sur le marché du travail parce qu'on fait des études. C'est de plus en plus difficile de décrocher un CDI. On multiplie les périodes de chômage. On fait l'auto-entreprise où on sait que les droits à la retraite sont pas terribles. Bon, bref, les jeunes générations risquent d'avoir des retraites moins élevées que leurs aînés. D'où l'intérêt de leur souscrire un placement retraite, le PER, qui, à la retraite, va leur servir un capital, donc une somme versée en une seule fois ou en plusieurs fois, une rente viagère, donc une somme qui est calculée par rapport à l'encours, à l'espérance de vie, et qui est servie régulièrement jusqu'à leur décès, ou, à la fois, en capital et en rente, c'est eux qui vont choisir. Alors, Cédric, je vous connais, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que dans ces cas-là, je pousse mon enfant à épargner pour sa retraite, j'ai bien compris que c'est important, mais il y a deux placements qui existent. Il y a le livret A, bon, alors c'est vrai que c'est plafonné, mais il y a l'assurance vie.
Oui, c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on partirait sur ce PER qui, on va dire, a beaucoup d'avantages, beaucoup d'intérêts, beaucoup de raisons d'être souscrites, mais malgré tout, qui ferme un peu le champ des possibles, alors qu'avec l'assurance vie, on fait un peu ce qu'on veut.
Alors déjà, dans le PER, vous savez que vous pouvez avoir tous les supports que vous voulez, hein, exactement. Enfin, pour le PER assurantiel,
parce que vous savez qu'il y a un PER bancaire qui est un compte-titres en fait, et vous avez le PER assurantiel qui est un copier-coller de l'assurance vie. Donc si vous voulez avoir des CPI, si vous voulez...
Ce que je voulais dire par là, c'est que c'est uniquement pour notre retraite, alors qu'au moins l'assurance vie,
oui,
on pourra en faire ce qu'on voudra.
Mais justement, en fait, peut-être que ce désavantage peut être un avantage pour les personnes mineures, je m'explique, c'est-à-dire que contrairement effectivement à l'assurance vie, le capital est bloqué jusqu'à la retraite. Donc ça veut dire que votre enfant ou votre petit enfant, à 18 ans, il peut pas claquer tout son capital en sortie ou s'acheter une bagnole.
Il peut pas partir faire le tour du monde.
Eh non.
On peut le faire jusqu'à 25 ans dans l'assurance vie avec le paquet de joint, mais pas...
Exactement. Bon.
Mais donc ça veut dire que, ok, on fait un cadeau au bambin, il va arriver et à 18 ans, il sera bloqué et il devra se dire, tiens, ce joli pactole, je vais devoir poireauter jusqu'à 62, 3, 4, 5
bah oui.
ou
là,
plus
on sait pas,
pour le
peut-être
toucher.
Peut-être 64, peut-être 65, ouais. Bah, vous avez raison. Donc, et bah, à part que ce que le PER prévoit, et ça c'est pas mal, c'est un déblocage anticipé, c'est-à-dire avant la retraite, pour l'acquisition de la résidence principale, ouais. Ce qui est un investissement...
Il y a tous les cas, voilà, tous les cas ordinaires qui ne sont pas rigolos.
Bah, qui ne sont pas rigolos, mais en cas
de décès,
parent,
en cas de...
En tant que parent et
mais il y a ce cas de résidence secondaire.
Voilà, en tant que parent et grand-parent, savoir que, en cas... C'est pas sympa, mais en cas d'invalidité, de surendettement, de fin des allocations chômage, il puisse débloquer son PER et donc avoir un capital qui n'est pas taxé en plus, c'est pas mal. Après, effectivement, ça c'est pas très sympa, ça c'est pas très Noël, ça pour le coup. En revanche, pour effectivement l'acquisition de la résidence principale, en tant que parent ou grand-parent, vous ne pouvez qu'abonder cet investissement. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a une cerise sur le gâteau où, si vous me le
permettez... Encore un cadeau ?
Si vous me permettez, Cédric, parce que je voulais la faire celle-là, une étoile sur le sapin.
Ah, alors pourquoi, enfin quel autre cadeau nous avez-vous trouvé ?
Eh bien, comme vous le savez, le grand intérêt du PER, enfin, notamment, c'est la déduction fiscale. Vous pouvez déduire les versements effectués sur le plan sur vos revenus à déclarer à l'administration fiscale. Alors, il y a un garde-fou. Pour ce qui est des inactifs, dont font partie les mineurs, mais aussi les étudiants, les demandeurs d'emploi, les parents au foyer, les retraités, puisqu'il est possible de souscrire un PER même si on est à la retraite, eh bien, ce plafond correspond au plafond annuel de la Sécurité sociale de l'année précédant le versement. Donc là, par exemple, pour les versements 2022, faut prendre le pass 2021 qui était de 41 100, enfin qui est toujours qui est de 41 136 euros, et bien vous prenez 10%, donc vous pouvez déduire jusqu'à 4 113 euros. L'enfant mineur, il est généralement rattaché au foyer fiscal de ses parents, et bien cette déduction, donc c'est ça le deuxième cadeau, l'effet bonus on va dire, et bien les parents pourront déduire de leurs revenus qui seront déclarés au printemps prochain 4 113 euros de leurs revenus imposables. C'est donc une sorte de cadeau où tout le monde se fait plaisir.
Mais donc ça veut dire que les parents qui peuvent déjà utiliser leur plafond
cumulé
sur les trois années passées,
exactement,
peuvent en plus rajouter
en plus,
ceux des enfants.
Exactement. Tant qu'ils sont rattachés au foyer fiscal.
Ça devient une arme de déduction massive.
C'est ça, pas mal. Ben, je la reprendrai celle-là.
Hein ? Allez, c'est cadeau.
Merci. Ben, décidément, tout c'est cadeau. Ouais,
exactement, c'est Noël. Ouais, vous avez décidé de vous déguiser en PER Noël, c'est votre problème. Jean-Philippe Dubosc est tout sur mes finances qui nous accompagnait ce matin. Merci d'être passé nous voir. Et on se retrouve bien évidemment très bientôt. Le CAC 40, lui, fait quasi du surplace. -0,06%, 6692 points dans un instant. Un coup d'œil justement sur les marchés.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.